Fait que Réal, il va commencer l'assemblée.
C'est bon?
Je vais commencer.
Oui, bonjour. À ce soir, moi, bienvenue pour l'assemblée pour ce soir. Fait que. On n'a pas de choses de.
Oui. Tu l'as pas, c'était l'autre jour.
Ah, ah, ah.
Moi, je
l'avais,
mais je pense que j'ai oublié.
Merci. Ah non, elle
l'a
pas.
Oui, tourne,
t'es pas.
Là.
OK.
C'est celle... non, l'autre après. Ça, c'est le 8 février.
C'est pareil.
OK, celle-là. Okay. Est-ce que vous nous entendez?
Oui, mais pas fort.
OK. Parle plus fort, Réal.
OK, on va parler plus fort d'abord. Un, vous, bienvenue.
Ouais, Réal, parle un petit peu plus fort.
Un, mot, bienvenue. Deux, adoption de l'ordre du jour. Trois, étude d'assainissement des eaux usées. Quatre, fermeture de l'assemblée.
Où? Ouais, il est où?
Mais arrête de crier après eux autres.
Non, mais c'est après eux autres, il faut que j'aille le volume. Il faut l'entendre.
Entre le
2
et le
3,
on va ajouter séance à huis clos.
OK, séance à huis clos.
OK, c'est bon.
2
Donc, ça prend un proposeur, un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour.
Qui seconde, qui propose?
Diana.
Diana. Puis Priscilla. Hugues, on ne le voit pas, c'est...
Hugues, on le voit, il est en bas, là, il est dans l'écran.
OK.
Il est là, il fait son pouce.
Ah, OK, c'est correct. 2B, séance à huis clos.
C'est qui propose comme de quoi quand on est à huis clos, il n'y a pas de public et puis on est sous enregistrement.
Qui propose, qui seconde?
Hugues propose.
Moi.
Pierre.
Monsieur Godbout.
OK. 3, étude d'assainissement des eaux usées.
Bon, Yann, si tu veux nous parler de l'étude qu'on a reçue, c'est à toi la parole.
OK, parfait. Fait que, bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ingénieur chez SNC-Lavalin à Ville-Marie, au Témiscamingue. Donc, je travaille beaucoup avec les... beaucoup avec les dossiers des petites municipalités. Donc, on a fait beaucoup d'études déjà, comme votre cas exactement, sur le primo. Donc, on a également travaillé à Poulary là, pour les dernières fois qu'on a fait de la réflexion de vos réseaux en communication avec M. Godbout pas mal pour justement commencer à avancer vos dossiers vers quelque chose qui va être intéressant pour votre municipalité, donc des étangs non aérés. Je pense que vous êtes tout au courant un peu des enjeux qu'on avait pour vous pour essayer de faire un traitement qui va pas vous couper les jambes sur les coûts d'opération et aussi le temps d'opération puis la complexité d'opération. Donc, on a déjà pas mal aligné vos dossiers pour que ça devrait bien aller pour construire des étangs non aérés chez vous. Là, maintenant, ce que le ministère des Affaires municipales demande pour que votre projet soit finançable sur le primo. Donc, ça, c'est le projet de subvention qui est spécifiquement là pour le traitement des eaux. C'est quand même assez bien subventionné. Ça peut aller jusqu'à 95%, ce projet-là, pour les municipalités qui ont un gros taux d'endettement. Mais au minimum, c'est 85%, ce projet d'assainissement-là. Donc, c'est très intéressant. Mais le bémol, c'est le primo. Le ministère des Affaires municipales demande des études vraiment poussées avant de dire qu'ils vont de l'avant avec ce projet-là. Fait que c'est de là, vous avez sûrement toute l'offre de services en main que Cathy m'avait demandé. C'est des études qui prennent du temps à faire, puis il y a beaucoup d'étapes à franchir dedans. Donc, Cathy, est-ce que tu veux que je fasse le tour rapidement de l'offre de services puis le plan d'action?
Oui, s'il te plaît. Les ouais. Élus présents en salle, ils ont le document. Hugues et M. Godbout, est-ce que vous avez le document que je vous avais remis?
Oui, je l'ai.
OK. Je vais partager mon écran, comme ça, oui. On va voir si ça marche dans deux secondes. Ah, je peux pas partager parce que la haute ne permet pas. Donc, si vous avez le document en avant de vous, d'abord, là, on pourrait juste regarder rapidement. Je pense qu'on va commencer un peu en envers, c'est-à-dire que je vais aller à l'annexe 1 du document que vous avez l'offre de service. C'est le plan d'action que on a monté, que j'ai monté pour Cathy il y a quelques semaines. Donc, c'est un peu comment le projet va se développer ici, 2021-02. C'est la première étape là, dans ce plan d'action-là, jusqu'à la date où on paye sur le piton et on met tout ça en 2025-12. Fait que vous voyez le temps que ça prend là, pour faire ça. C'est un 4 ans, là, 2022, 23, 24, 25. Fait qu'il y a vraiment 4 ans et dans 4 ans, la mise en route va être faite, mais après ça, il y a une année de régler les déficiences et les choses comme ça. Donc, l'étude maintenant, ce qu'on a besoin de faire dans ce plan d'action-là, c'est en réalité l'étape 3, donc démarrage du projet d'assainissement, d'étude d'assainissement, je veux dire, jusque l'étape où on reçoit l'approbation du CPTAC. Donc, dans le fond, l'étape 3 à 23. Donc, l'offre de service qu'on vous avait donnée, c'est un offre de service pour faire l'étape 3 à 23 de cette plan d'action-là. Puis, ça commence par... la première chose qu'il faut savoir, c'est quelle quantité d'eau usée qu'il faut traiter. Donc, la première étape, c'est d'installer les débitmètres dans les émissaires à Poulary. Là, il y en a potentiellement 5, mais on va essayer de réduire ça pour peut-être arriver à 3, les 3 principaux. Donc, il faut installer les débitmètres dans les regards d'effluents, mesurer la quantité d'eau qui passe là, en même temps que de mesurer la précipitation pour qu'on puisse savoir exactement dans le futur, les prochaines 30 ans, c'est quoi les dimensions de votre traitement qu'on doit faire. Là, c'est les étangs non aérés qu'on vise, fait que c'est en réalité de dimensionner la grosseur de ces étangs-là qui va accumuler toutes les eaux pendant 6 mois de temps. Vous pouvez imaginer là, c'est que c'est quand même une donnée assez importante là-dedans qu'on n'a pas chez vous en ce moment. On n'a jamais fait une campagne de mesure de débit. Fait que c'est ça, comme la première étape de ce mandat-là. Et c'est la raison qu'on se parle aujourd'hui un peu en urgence, c'est parce que il faut avoir des données pour le printemps. Fait que le printemps, ça veut dire que le 1er avril, là, on est un petit peu en retard. Mais mettons, si on est installé le 1er avril, ça va. Qu'il faut avoir des débitmètres installés dans vos émissaires le 1er avril pour être capable de ramasser le printemps, parce que le printemps, c'est une période critique pour la quantité d'eau. Comme vous pouvez imaginer, toute la fonte des neiges, on ramasse beaucoup d'eau dans nos réseaux. Fait qu'il faut le mesurer le printemps. Fait que c'est pour ça qu'on met un rush dessus. Si vous voulez aller de l'avant tout de suite, mais il faut mettre un rush sur au moins cette étape-là. Donc, cette étape-là, si on attend jusqu'en mois d'avril, ce que ça va faire, c'est que il va falloir, ben, on retarde le projet, pas tout à fait de un an, mais pratiquement. Fait que toutes les dates que vous voyez dans le plan d'action, mais vous allez repousser ça de un an. Est-ce que c'est vraiment grave ou pas? Mais c'est à vous de décider. C'est sûr que c'est un an de plus là, qu'on fait pas, ce projet-là. Et un an de plus qu'on rejette nos égouts directement dans la rivière à côté de vos maisons. Donc, c'est ça donc l'étape numéro 3, donc de démarrer ce projet-là et de faire l'appel d'offres pour faire les campagnes de mesure de débit. Dans le fond, c'est des firmes, des techniciens spécialisés qui viennent installer le débitmètre pour vous. Puis nous, étant donné qu'on est proche en région, mais on les aide là, parce qu'on a un technicien à la SAR qui est capable d'aller faire vous assister pour prendre les données. Donc, il faut quand même aller une fois par semaine, aller chercher les données de ces débitmètres-là. Puis, cette campagne-là, il faut le faire pour à peu près 8 mois. Fait qu'on va pogner tout le printemps, tout l'été, l'automne et l'hiver, partie de l'hiver. Si on arrête peut-être en mois d'octobre, novembre. Fait que là, on a une bonne représentation de toutes les saisons. On va savoir quelle quantité d'eau on va recevoir en l'hiver, automne, été, etc. Fait qu'après ça, le restant qui est dans cette offre de service-là, je pourrais les passer aussi rapidement, mais comme je vous dis, c'est l'étape 3 et 4 qui est critique en ce moment à faire. Sinon, on retarde le projet de un an. Les autres étapes sont moins critiques. De toute façon, on va attendre les données de la campagne de mesure de débit avant de prendre entreprendre les prochaines étapes. Donc, pour faire la mise en plan préliminaire, donc l'étape 5 de votre projet sur des orthophotos, prendre tous ces débits de conception-là, de les pré-mancher puis les mettre dans un format que le ministère des Affaires municipales vont être capables d'analyser. Donc, en réalité, on dépose une note technique avec le ministère des Affaires municipales pour acceptation avec les débits. Puis le ministère des Affaires municipales, ensuite, avec ces débits-là, ils demandent au ministère de l'Environnement de nous donner vos objectifs de rejet. Fait que ça veut dire, on leur dit la quantité d'eau que vous allez rejeter dans la rivière, sûrement dans la rivière Louise, là. C'est Louise, ouais, je pense le nord-est. Eux autres, ils vont nous dire c'est quelle concentration qu'on peut rejeter dans cette cour d'eau-là. Puis ça va nous guider pour sizer notre traitement. Donc, pour s'assurer qu'on peut respecter les normes qu'ils nous demandent. Ça, c'est l'étape 5. C'est ça. Après ça, l'étape 6, il faut excusez-moi, là, j'ai sauté un peu des choses. Dans cette même étape-là, pour déposer cette note technique-là avec le ministère des Affaires municipales, il faut également proposer les sites où on veut construire vos étangs. Donc, l'étape 6 et 5, en réalité, c'est pour... et le 7, c'est pour cibler les sites potentiels. On a déjà ciblé des sites chez vous. Dans le fond, on a plusieurs contraintes. Il faut être à 300 mètres de la maison la plus proche. Il faut être proche d'une grande cour d'eau, idéalement. Donc, il n'y a pas 56 000 façons de le faire à Poularie. Il va falloir aller dans le champ au nord-est du village, en arrière du terrain de balle, mais plus collé sur le cours d'eau Louise, je crois. C'est ça l'étape 5.
Yann?
Oui. Oui, vas-y.
Sachant là, que la rivière Loire, là, tu dis on enverrait nos déversements là. La rivière Loire, là, il y a des municipalités qui prennent leur eau potable. Là. Je parle de Macamic, exemple. Ouais. Ça peut-tu mettre un problème?
Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui va avoir un effet sur nos objectifs environnementaux de rejet. Fait qu'en sachant qu'il y a une source d'eau potable, mais il doit quand même être à plusieurs kilomètres, là.
Ils sont à la sortie de la rivière en rentrant au lac, là.
C'est ça. Fait qu'on parle, quoi, une dizaine de kilomètres?
Le lac Macamic. De chez nous, oui, ouais. Ça dit une dizaine de kilomètres, oui.
C'est ça. Fait que je pense qu'à 10 kilomètres, parce que dans le fond, là, il y a un calcul que le ministère de l'Environnement, ils font. C'est que la rivière, là, il y a des coliformes fécaux dedans. Il y a des vaches qui vont boire là, il y a des animaux qui vivent là-dedans. Les poissons, ils ont pas de salle de bain, là. Fait que eux autres aussi, là, ils font leurs besoins dans l'eau. Fait que ce qu'on va rejeter dans la rivière, par exemple, il va avoir des bonnes concentrations de coliformes fécaux. C'est là un peu le problème. Mais à 10 kilomètres, on va retourner à la concentration de fond de la rivière. Fait que je pense pas qu'il y ait un problème. À 10 kilomètres, on va retourner à la concentration de fond de la rivière, ce qu'on va rejeter. Fait que c'est à valider. Mais c'est parce que les autres options, c'est de construire des technologies mécaniques où on peut carrément faire la désinfection. Mais c'est le dernier recours, parce que vous pouvez imaginer les coûts de construction puis les coûts d'opération de ça. Il y a plusieurs places où j'ai déjà vu qu'on pige l'eau en aval de nos projets d'assainissement des eaux et c'était pas un problème là.
Mais nous là,
parce que vous pouvez imaginer la rivière Loire, la quantité d'eau qui passe dans cette rivière là versus ce que vous allez rejeter, il y a une énorme dilution déjà qui se fait et ce qu'on rejette dans la rivière est déjà traité. Fait que on parle pas de rejeter comme en ce moment, là, on rejette nos eaux brutes là, dans la rivière. Mais c'est effectivement quelque chose qu'ils vont regarder. Ils vont également regarder si la rivière, il y a des animaux qui peuvent s'abreuvoir dans la rivière. Ça peut être une contrainte aussi. Ça peut peut-être être même une contrainte plus importante s'il y a des fermes de bœufs à la proximité. Fait que c'est des choses qui quand on fait nos débuts de conception, on va leur dire on veut rejeter à tel point, c'est notre meilleur point de rejet. On leur dit la technologie aussi qu'on veut utiliser, puis ils nous donnent les objectifs à rencontrer. Puis ils vont nous dire à cette étape-là, mais les étangs non aérés seront pas adéquats là, parce qu'ils peuvent pas protéger justement la source d'eau potable de Macamic, etc. Si c'est le cas, il faut regarder d'autres technologies. C'est pour ça que cette étape-là, l'étape numéro 7, 9, excusez-moi, du plan d'action, dépôt de la note technique du début de conception, cours d'eau récepteur et technologie à inclure dans la demande OAR avec le MAMH. Mais il traite ce point-là. C'est que on leur dit où on veut rejeter, on leur dit quelle quantité qu'on rejette, on leur dit en disant quelle technologie on va utiliser, on leur dit également la concentration qu'on va rejeter. Puis là, le ministère des Affaires municipales demande au ministère de l'Environnement de trancher, de dire est-ce que ça va être correct. Fait que cette étape numéro 9, là, c'est là qu'ils décident. Si ça passe, ça casse. Ça répond à votre question?
Mais, si, exemple, ils veulent pas pour la rivière Loing, est-ce qu'on peut y aller avec un autre cours d'eau à proximité, exemple comme la rivière d'Agenais qu'on a actuellement?
On peut, et c'est sûr qu'on peut aller avec la rivière d'Agenais. Si on peut pas aller avec la rivière Loing, ça, on peut essayer de la rivière d'Agenais. Le problème avec la rivière d'Agenais, c'est qu'elle est beaucoup plus petite, donc il y a beaucoup moins de dilution dans cette rivière-là. Et ils passent dans votre milieu urbanisé. Fait que automatiquement, ils vont avoir une exigence plus importante. Je peux pas imaginer que la rivière d'Agenais, qui est beaucoup plus petite, va être que les ministres environnement vont préférer cette rivière-là. Juste par le simple fait que on parle de, d'après moi, les deux rivières, là, ils doivent avoir 100 fois plus d'eau dans un que dans l'autre. Là.
Ouais. Ouais. Effectivement.
C'est ça. Fait que la dilution, là, c'est la première chose qu'on recherche pour ça. Et je pense pas que le fait que Macamic est à 10 km est une contrainte. Mais on peut avoir cette option-là dans notre manche, là, en disant, on peut rejeter dans d'Agenais. Parce que le problème, c'est que si ils nous donnent une exigence trop importante que ce que les États non aérés peuvent faire, mais là, il faut aller vers les technologies mécanisées ou les États aérés. Fait que c'est la différence.
Aérés, donc,
si vous le savez pas encore, peut-être les membres de votre conseil, les États non aérés, ça va vous coûter grosso modo 10, 15 000 max par année à faire rouler. Un État aéré, c'est 50, 60 000 piastres à faire rouler par année. Il y a un 50 000 $ par année non subventionnable. Fait que il faut se battre jusqu'à temps qu'on a plus de cheveux sur nos têtes comme vous, M. Godbout, pour avoir ça.
Ouais. Il n'ira pas bien.
Fait que c'est ça. Donc, la note technique, c'est une étape très importante. C'est là qu'on voit que ça, une fois que la note technique sur la technologie passe, puis on reçoit les OR, puis ils sont favorables pour nos étangs non aérés, mais on est en business parce qu'après ça, les autres choses, c'est juste de rentrer les détails, donc de faire accepter le concept là, des étangs non aérés par le ministère des Affaires municipales, puis de faire, si j'irai pas dans toutes les autres étapes en détail là, parce qu'on va manquer de temps, mais c'est de recevoir, finalement, de déposer un rapport avec le concept au ministère des Affaires municipales. Ça, c'est l'étape 4. 13, 14, il faut déposer, une fois qu'on sait qu'on peut utiliser les étangs non aérés, on va déposer un rapport qui va leur donner le design de nos étangs non aérés et l'estimation. C'est là la première fois qu'on va voir l'estimation. Donc, on est rendu en 2022-04, la première fois qu'on voit le prix de tout ça. Puis après ça, le ministère des Affaires municipales, ils vont commenter ça, ils vont dire s'ils sont d'accord. Fait qu'en espérant qu'on peut avoir une acceptation du MAM et du ministère de l'Environnement du design, là, de l'idée en 2022-05. Fait qu'après ça, mais on vient faire des relevés un peu plus précises du site où on veut construire les étangs et on fait le conseil plus détaillé. Fait que là, on va commencer à calculer plus les remblais des blés, essayer de balancer ça, les stations de pompage, où la conduite de refoulement va passer. On commence à regarder où est-ce qu'il faut aller chercher les servitudes pour les conduites, pour les chemins d'accès, pour les stations de pompage, pour les étangs. Fait que ça, c'est dans l'étape 17 là, qu'on fait ces plans préliminaires là. Après ça, on doit également entreprendre les études environnementales dans cette étape-là. Donc là, on est à l'étape où le concept est accepté, le design est accepté, on est en train d'aller chercher les détails, fait qu'on fait les études environnementales, une phase 1, donc de savoir qu'il n'y a pas de sol contaminé, une étude écologique sur les sites où on veut construire. Fait que ça, c'est une biologiste, puis il y a des gens en environnement qui débarquent. Et on fait également la deuxième étape de l'étude géotechnique. Donc, la première étape, je suis peut-être allé vite, mais c'était l'étape 6-7. C'était avant de décider où est-ce qu'on va mettre les étangs, on va juste aller avec un backhoe, faire quelques trous pour regarder le sol en place, il a l'air de quoi. C'était une étude géotechnique qu'on appelle ça de première d'étape 1. Fait qu'on va juste échantillonner les sols, on va dire OK, il y a une bonne potentielle, c'est en argile, la nappe phréatique est pas trop proche, fait que c'est ça, fait que ça c'est l'étape 6-7. Là la deuxième étape de l'étude géotechnique, c'est dans l'étape 19. Fait que là, on va physiquement forer. On va forer sur le site retenu là, par tout le monde. On va regarder la capacité portante des sols, vraiment la perméabilité du sol pour s'assurer qu'il est étanche, cet étang-là. Et on reçoit un rapport géotechnique qui nous donne des recommandations pour cette partie-là. Et après ça, mais on dépose le rapport avec le MAM qui va inclure vraiment tous les détails. Donc, pour dire qu'il n'y a pas de problème pour l'environnement, il n'y a pas de problème pour le côté géotechnique, etc. On dépose ça, il accepte. Puis là, on fait la demande avec le CPTAC pour faire dézoner cette champ-là, parce que je pense qu'on est dans une zone verte là, sur le bord de la rivière où je regarde en ce moment. Là. Puis c'est tout encore pour discussion, là, où est-ce qu'on le met. Mais là, ça, on fait la demande du CPTAC. Ça, ça prend au moins 6 mois avec le CPTAC pour avoir l'OK de leur côté. Fait qu'après ça, vous allez être rendu à l'étape 24. Fait qu'à l'étape 24, cette étude-là prend fin. Fait que là, il va falloir aller en appel d'offres pour les ingénieurs pour faire des plans et devis. Les plans vont déjà être avancés un peu et le concept va être défini. Fait que la firme qui va avoir le mandat à ce moment-là va avoir à faire les plans détaillés, faire les devis, aller en appel d'offres. Et ça, c'est les étapes là, après. Là, on voit le dépôt des plans et devis avec le MAM. Eux autres, ils vont l'accepter. On fait la demande de certificat d'autorisation avec le ministère de l'Environnement à cette étape-là. Mais le ministère de l'Environnement va déjà être d'accord avec l'idée. Fait que ça ne revient plus. Là. C'est juste c'est les petits détails. Fait que c'est la demande de CA. Appel d'offres, c'est l'étape 28 dans ce plan d'action-là. Appel d'offres pour la construction, puis après ça, il y a aussi, je veux dire, j'ai mis des étapes dedans déjà pour vous, là, pour aller chercher votre financement sur le primo, parce que c'est long, là. Il faut déposer un règlement d'emprunt entre-temps pour être capable de payer ça pendant que l'argent rend du primo. Fait qu'on a prévu du temps pour tout ça. Fait que c'est le calendrier qu'on a déposé.
Ça prend le temps. Yann,
oui.
Pour avoir pour la subvention du primo, là, en termes de temps, faut se prendre combien de temps? 1 an, 2 ans?
Non, dans le fond, là, ce qu'on a vécu, c'était c'est que le ministère des Affaires municipales, eux autres, ils vont vous donner une lettre d'intention confirmant l'aide financière. Puis, le ministère des Affaires municipales, ils vont juste commencer à regarder ça quand on va ouvrir les soumissions de l'entrepreneur. Fait que sur le primo, ils financent pas avec les estimations. Ils financent vraiment le montant qui va sortir quand on ouvre les enveloppes des entrepreneurs. Fait que ça veut dire qu'entre le temps qu'on ouvre les soumissions et le temps que vous allez avoir votre lettre d'intention, c'est à peu près 3 mois. Fait que ça veut dire que entre-temps là, ça vous donne aussi le temps de faire votre règlement d'emprunt pour financer le projet, parce que le primo il vous donne pas l'argent jour 1 là. Fait que vous allez rouler sur du crédit à la municipalité pour financer ce projet là le temps que le primo vous paye. Puis je pense même ça prend plusieurs années là avant de recevoir toute l'année l'argent du primo là. Fait que il y a du financement à long terme là pour payer l'entrepreneur général. Et c'est sûr qu'il y a une bonne partie, mais l'ingénierie, il faut essayer de garder votre tech pour payer ça. Parce que sur le primo, la partie ingénierie n'est pas bien financée. 50% de financement maximum. Mais l'ingénierie, vous pouvez le payer avec votre tech. Fait que cette étude-là qu'on regarde en ce moment, il faut absolument le payer avec votre tech. Il ne va pas sur le primo, ça ne vaut pas la peine. C'est le max que vous pouvez chercher comme financement, c'est 50%. Et l'autre 50%, vous pouvez pas le payer avec votre tech. Fait que cette étude-là, il faut absolument le faire sur la tech. Puis les plans et devis le plus possible également, il faut le faire sur votre tech. Après ça, la partie construction, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va construire dans Prochaine Tech. Donc, la partie construction sur le primo, ce qui est très avantageux, c'est que la partie qui finance, le primo finance pas, vous pouvez le combler avec la tech, mais juste pour la partie construction. Fait que vous pouvez avoir un projet qui peut vous coûter proche de $0 si vous planifiez bien vos affaires, parce que pendant la partie de construction, si le ministère des Affaires municipales vous donne 85%, je lance des chiffres là, juste pour avoir un chiffre rond, c'est pas les vrais chiffres, mais si le projet coûte 1 million, ils vont vous donner 850 000, il reste 150 000 à financer de votre partie. Ça veut dire que vous pouvez prendre 150 000 $ de votre tech pour payer cette partie-là. Si votre seuil d'immobilisation minimale est déjà atteint, là, bien sûr. Là. Si le projet, c'est de 2 millions, par exemple, mais ça va vous coûter 300 000 de votre tech. Donc, il faut juste essayer de planifier le projet pour que vous pouvez les tirer assez de temps pour rouler sur deux techs. C'est très avantageux.
Ouais.
Écoute. Fait que c'est ça, là. Donc, les délais dans le financement, là, c'est une étape importante à regarder. Effectivement, Monsieur Godbout, parce que vous avez un règlement d'empreinte à faire. Puis ça, vous allez seulement pouvoir faire ce règlement d'empreinte ou vraiment avoir le règlement d'empreinte quand vous allez avoir la lettre d'intention du ministère des Affaires municipales. Parce que la banque ne va pas vous donner cette empreinte-là de, c'est pas, disons, 2 millions. Si vous n'avez pas une lettre d'intention du MAM qui dit on va le payer sur tel nombre d'années. Fait que ça fait le tour du plan d'action. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le plan d'action spécifiquement. Après ça, on va parler argent.
Bien, sur le plan d'action, j'aurais
Moi, là, j'avais deux questions. Une première, la distance de la fosse à la dernière maison, c'est combien en mètres?
C'est 300 mètres, disons 1000 pieds, 300 mètres. Et idéalement, il faut être, pour Poulari, au nord-est du village, à la limite à l'est du village, parce que on n'est pas dans les vents dominants. Ça, c'est pas une règle absolue, les vents dominants, étant donné qu'on est en zone agricole, ça sent pas bon anyways, mais le 300 mètres, là, c'est pas négociable. Il faut être à 300 mètres de la résidence le plus proche et il faut être proche d'un cours d'eau récepteur. Ce qui va arriver si on se construit pas proche d'un cours d'eau récepteur, c'est qu'il va falloir pomper nos effluents. Et de pomper les effluents, ça vient annuler beaucoup l'avantage des étangs non aérés. On n'a pas besoin d'amener l'électricité aux étangs. Là, il faut amener l'électricité juste pour une station de pompage qui peut pomper les effluents. Mais ça se peut là, que si on peut pas se mettre trop proche d'un cours d'eau, qu'il faut pomper notre effluent.
C'est combien la distance de la rivière à la fosse?
Ça, c'est le plus proche possible. C'est que le plus qu'on peut être collé sur la rivière,
ça peut arranger ou quelque chose de même.
Il faut juste être à l'extérieur de la bande riveraine. Puis idéalement, s'il y a une zone humide, là, est à l'extérieur d'une zone humide. Une zone humide. Fait que, et dans Apulari, là, la place que j'ai spotée en ce moment, mais c'est sur la barre de la rivière Loua, au nord-est, c'est dans une zone boisée. C'est pas dans le champ cultivé. J'irai dans, il y a comme une friche, là, collée sur la rivière Loua. Qui est en friche en ce moment à Poulari. Fait que ça, c'est une bonne potentielle là, dans ma tête, parce qu'il y a plusieurs avantages. On va être collé sur la rivière, on n'est pas dans une zone qui va avoir trop de dommages sur l'agriculture, parce que le CPTAC, ils vont nous challenger aussi. Si on prend le plus beau champ à Poulari, ben, ils vont essayer de bloquer le projet. Fait que si on est capable de le mettre quelque part où il y a un champ qui est en friche ou carrément boisé, c'est mieux, là.
Mais moi, j'ai une question.
Mais c'est en gros ça qu'il faut regarder. Fait que 300 mètres de la maison.
C'est quoi la dimension, Liane, des fosses? La dimension en terrain là, pour mettre les fosses, c'est quoi ça te prend?
On n'a pas une bonne précision, là, monsieur Godbout, parce que je ne sais pas c'est quoi les débits. Mais quand j'ai fait l'étude pour vous, là, avec les débits qui ont été établis grossièrement par. par un autre consultant là, il y a plusieurs années. On avait besoin d'environ 225 mètres par 155 mètres. Donc, 225 fois 155, ça donne 5 000 mètres carrés. Fait que ça donne, ça c'est 35 hectares là, de, à peu près, là, ça c'est vraiment grossière, mais c'est ça, ça va se ressembler à ça, là. Ça va peut-être être 30 ou 40, là, mais ça devrait se ressembler à ça. C'est ça, fait, comme je vous dis, là, il y a un champ qui est au nord-est du village, puis il y a une partie en friche entre ce champ-là et la rivière Loi, là, qui est peut-être intéressant. Parce qu'on n'est pas rendu là encore, là, il va sûrement aller spotter deux places, là, au moins. Pour être capable de dire qu'on a au moins regardé deux places. Puis là, c'est sûr qu'il faut regarder l'acceptabilité du propriétaire de cette champ-là aussi à vendre ses terres. Au final, il peut être exproprié aussi, là. Mais c'est sûr qu'on n'essaie pas ça pour commencer, là. Bon. L'autre deuxième question pour le plan d'action, M. Godbout, c'était quoi?
Ouais, c'était les deux, là.
C'était un 2-1.
Okay.
Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait une question sur le plan d'action?
Je n'ai plus. Non, ça va.
Ça va, d'accord. Parfait. Donc, on va passer à la partie financière de ce projet-là. Puis là, j'essaie de juste rouvrir mon offre de service que j'ai perdu. OK, il est là. On vous avait mis beaucoup de détails là, dans cette offre de service là parce que on ne sait pas exactement le temps que ça va prendre, donc on l'a mis à l'heure pour vous montrer toutes les étapes à franchir. Fait que nous on vend des heures, notre expertise c'est compté en heures, donc on vous propose ce budget là pour franchir toutes les étapes jusque de l'autorisation du CPTAC. On pense que c'est un budget très réaliste et on croit que ça dépasserait pas ça. Donc, fait que je pense que si ça fait quelque chose, c'est un peu moins que ça. Étant donné qu'on vous le propose à l'heure, on n'a pas besoin de se mettre en sécurité. Là. On va le mettre vraiment comme on pense que ça va être, avec les taux à l'heure des gens qui vont travailler sur ce projet-là. Donc, les étapes à faire là-dedans qui coûtent le plus d'argent, mais comme vous pouvez imaginer, c'est les trois livrables. Là. Donc, il y a la note technique avec les débits dedans. Fait qu'il faut établir tous les débits, les emplacements, il faut faire les visites pour établir où est-ce qu'on va mettre les étangs, aller faire un peu de relevé. Écoute, je vais aller en ordre, là, ça va peut-être être plus facile. Fait qu'il y a des frais d'ouverture. 300 $, ça c'est pour que nous autres on peut ouvrir le dossier et gérer toute la partie administrative. Cueillir des données et conception préliminaire, l'étape 1. Donc ça c'est en gros de démarrer le mandat. On va faire nos réunions de démarrage. On va faire notre conception vraiment préliminaire parce qu'on a besoin d'avoir un petit design pour savoir où est-ce qu'on va intercepter votre réseau. Puis, on a besoin de dire au ministère des Affaires municipales à cette étape-là, est-ce que vous êtes d'accord avec notre approche? Fait qu'on écrit des courriels au ministère des Affaires municipales, on leur dit, regarde, on s'aligne comme ça, c'est-tu correct pour vous autres? Fait que ça, c'est l'étape 1. Je rentre pas dans les détails, c'est dans les annexes de cette offre de service-là que vous pouvez vraiment voir chaque heure qu'on prévoit pour chaque type de spécialiste, technicien en environnement, les ingénieurs, secrétariat, etc., tant tout. L'étape 2, c'est de préparer les mandats de suivi pour la géotechnique, le débit et la phase 1. La phase 1, on va y discuter dans 2 secondes parce qu'on l'inclut dans cette offre de service-là parce qu'on peut le faire à l'interne. Fait que ces deux premières étapes-là, l'étape 1 et 2, mais en réalité, c'est ça qu'il faut faire avant le mois d'avril cette année. C'est sûr que, comme j'ai dit à Cathy, si vous voulez pas aller de l'avant avec tout le mandat actuellement, parce que ça se peut que vous avez des contraintes au niveau de l'attribution des contrats municipaux, parce que le mandat est en haut de 25 000 $, mais en bas de 105 700, L'étape 1 et 2, c'est on a une roche là-dessus, si vous voulez pas retarder le projet de 1 an. Fait que là, c'est sûr que dans la partie 1, le cahier des données de conception préliminaire, on n'a pas besoin de tout ce budget-là juste pour aller installer les débitmètres. Là, c'est une partie de ce budget-là. Puis même chose pour la deuxième partie. On n'a pas besoin de tout ce budget-là parce que ça, c'est pour faire un appel d'offres pour l'étude géotechnique et pour le débit. Fait qu'on peut-être la moitié de ce débit-là, la moitié de ce montant-là est attribué pour faire l'appel d'offres pour les campagnes de débit. Et pour l'étape numéro 1, cahier de données, peut-être la moitié aussi de ça et va être nécessaire avant le mois d'avril. Fait que c'est pour ça que mais je n'étais pas trop à l'aise de le splitter parce que de toute façon, si vous avez l'intention d'aller de l'avant avec cette mandat au complet, mais vous êtes mieux de nous le d'adapter vos règlements municipaux pour que ça peut passer comme ça ou si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Mais d'aller en appel d'offres pour cette étude-là. Puis vous pouvez vous baser sur l'offre de service qu'on vous avait déjà donnée. Puis là, on va soumissionner, comme tous les autres consultants, avec des forfaits. Puis ça va coûter à peu près le même prix. Peut-être 5-10 000 $ de moins que ce prix-là. Mais ça va être des forfaits, là. Fait que on s'entend qu'on c'est pas la même façon, c'est pas la même approche, là. Fait que le consultant va vouloir vraiment savoir qu'il va vous fournir le minimum qu'il doit vous fournir, là, parce que c'est pas à l'heure. Fait que c'est un peu ça la décision qu'il faut prendre, là, avec votre conseil. C'est que selon l'attribution des contrats municipaux, puis je sais pas exactement c'est quoi votre situation en ce moment, si vous êtes capable de donner des mandats de gré à gré, il faut vous assurer que vous êtes conforme, là. Il n'y a pas de passe-passe à faire là-dedans parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, mais ça se peut que le ministère des Affaires municipales vous enlève des subventions, là. Donc, il faut faire attention, là, de pas essayer de, on plie pas les règlements et c'est droite, là. Donc, c'est un peu ça la décision qu'il faut prendre. L'autre option que j'aime beaucoup moins, c'est de dire que vous donnez tout de suite un mandat de gré à gré en bas de 25 000 $ pour au moins pas manquer notre shot pour avril. Puis après ça, l'autre partie, une fois que vous allez avoir le temps de discuter sur votre façon d'attribuer des contrats municipaux, puis vous allez passer vos règlements là-dessus, mais là, vous donnez l'autre partie du mandat. Ça se fait, mais on s'entend que c'est juste un peu contourner les affaires, là. Parce que si plus tard vous décidez de pas faire cette attribution du contrat au complet, mais il va falloir aller en appel d'offres, là. Donc après ça, on va aller en appel d'offres. C'est pas nécessairement nous qui va continuer le mandat. Il va y avoir une perte de temps et d'argent dedans un peu. Mais ça se fait aussi, là. C'est pas à moi de le décider pour vous, là. Je vous donne juste un peu les répercussions, mettons, de vos décisions, selon moi, là. Donc, après ça, dans cette étude-là, je peux juste le compléter. Donc, pour produire la note technique avec les demandes OAR, etc., il y a à peu près du temps de 12 600 $ dedans. Après ça, de faire le rapport d'ingénierie conceptuelle, c'est à peu près 17 000 $. La phase 1, le numéro 5 là, dans les honoraires professionnels, on vous l'avait inclus parce que on peut le faire avec notre équipe à Rouyn-Noranda. Fait que ça implique une foreuse. Fait que il faut aller forer. La phase 1 n'inclut pas une foreuse. Ça, c'est pour l'étude géotechnique. La phase 1, c'est une étude documentaire pour regarder si où on veut mettre les stations de pompage, où on veut mettre les conduites d'interception. Parce que vous pouvez imaginer, là, il y a 5 émissaires en ce moment. Il faut toutes les ramener à la même place pour les pomper aux étangs. Donc, il y a quand même du tuyau à poser aussi, là, pour intercepter tous ces émissaires-là, puis les amener à des endroits logiques pour être capable de les pomper, puis d'avoir les moins de stations de pompage possibles. Mais c'est sûr qu'il y en a au moins 2 stations de pompage, puis il y a des bonnes chances qu'il y en a 3, là, à Poulary.
Yann?
Oui, vas-y.
Yann? En parlant des stations de pompage, là, si on met, mettons, un exemple, des fosses où ce qu'on veut les mettre, là, dans le friche, là, le petit friche que tu disais pas loin de la rivière, Moi, je pense qu'il doit avoir quasiment, si on regarde à partir de la fin de nos conduites ici, il doit avoir au moins un kilomètre là, de loin, là, de long. Là. Est-ce que les pompes vont être assez suffisantes pour pousser le stock là jusqu'à là-bas? Ouais, ça va en prendre une dans le milieu pour pousser le stock là.
Non, puis il y a pas un kilomètre là. Je pense qu'on est peut-être rendu à 500 mètres à peu près de à partir de la station. Parce qu'il va, c'est sûr qu'il va avoir une station de pompage dans le quartier comme de l'avenue Croteau là. L'avenue du Coteau, pas Croteau, de Coteau.
Coteau.
C'est rue Simon, Coteau. Avenue du Coteau. C'est la station de pompage principale. Il va être entre avenue du Coteau et la petite cour d'eau d'Agenais, là. C'est sûr ouais. que lui, il va être là. Puis il va suivre le chemin d'accès, notre conduit de refoulement. Fait que peu importe, on va construire le chemin d'accès pour longer le champ. Si on essaie de longer le boisé pour pas passer dans le milieu du champ agricole. Là. Fait qu'on longe le boisé, puis on s'en va aux étangs d'habitude. Puis notre conduit de refoulement, il est dans le chemin. Parce que vous allez demander une servitude pour le chemin, puis la conduite est dedans. Fait que si on a besoin d'intervenir dessus, ben on sait il est où, puis il est facile d'accès. Puis, il n'y a aucun problème de pomper 1, 2, 3 kilomètres. Il n'y a pas de contrainte pour ça. Là. C'est...
Puis la conduite, elle est sous terre? Elle est dans la terre, la conduite?
Elle est dans la terre. C'est une conduite de 3 ou 4 pouces. Peut-être, je pense que pour vous, ça va... Peut-être à cette longueur-là, ça commence à être un 4 pouces. Fait que c'est une conduite de 4 pouces enfouie à 7 pieds de profond sous le chemin à l'épreuve du gel. Et quand on rentre dans les bassins, quand on rentre dans un étang non aéré, mais on rentre dans le fond de l'étang. Fait que il rentre puis les étangs là, un étang non aéré, il est à peu près 2.4 mètres de profond. Fait que mettons 8 pieds de profond l'étang non aéré, de 8 à 10 pieds. Puis nous autres on rentre à peu près à 7 pieds de profond dans l'étang, fait que c'est il est enfoui, il est à l'épreuve du gel. Il y a un regard là, juste quand on rentre dans les étangs dans lesquels on vide nos tuyaux. Fait que c'est pas grave, le tuyau est très long. La station de pompage, il part de temps en temps. T'sais, il va peut-être partir une trentaine de fois par jour, le temps normal. T'sais, il accumule l'eau, il part, il envoie un gros boucher aux étangs et il arrête. Quand il y a assez d'eau, il part. Mais cette station de pompage-là, on va sûrement être obligé de pomper l'eau des autres stations de pompage vers lui. Fait que dépendamment comment on va être capable de se setuper. Mais la rue Drouin, par exemple, peut-être on est capable de traverser le chemin du MTQ par gravité puis venir domper dans cette même station de pompage-là. Fait que peut-être on peut éviter une station de pompage-là, mais il va falloir passer en dessus du cours d'Agenais, du cours d'eau d'Agenais. Peut-être ça se fait là, même par gravité parce que cette cours d'eau-là est pas très profond. Puis une station de pompage 5-6 mètres de profond, ça se fait. Là. Si on peut sauver une station de pompage. Mais c'est une grosse contrainte là, chez vous. Là, vous avez beaucoup d'émissaires qu'il faut tout ramener ensemble. Il y a la rue bord de l'eau qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait avec. Il y a la rue des coulées qu'il faut amener une conduite pour venir rejoindre l'émissaire qui est comme sur la rue du centre en ce moment. Puis après ça, il y a la rue du Rouen, puis il y a le quartier du avenue du Coteau. Ça fait 5, 1, 2, 3, 4, 5 émissaires en ce moment qu'il faut ramener ensemble. Peut-être la rue du bord de l'eau, on va décider, étant donné qu'il y a juste comme 2 maisons, de juste leur installer un petit regard de pompage en avant de leur maison pour pomper dans la rue plus haut, dans la rue du découlé. On n'a pas besoin de pomper jusqu'à la station de pompage, on pompe dans le réseau puis ça écoule par gravité jusqu'à la prochaine station de pompage. Donc, c'est pour ça que ça prend des relevés. Il faut savoir ces affaires-là pour faire cette étude-là, pour dire que où on va mettre les stations de pompage, quelle grosseur qu'on va mettre. Il faut qu'on débarque là-bas, qu'on prend des shots. Là. On a déjà beaucoup de relevés, mais j'ai regardé les DWG, les plans AutoCAD qu'on a, puis si on n'a pas rien pour la rue du Rouen, par exemple, et il manque un peu de données pour la rue des Coulées qu'on n'a pas. Mais c'est pas mal juste ça qui nous manque. Comme relevé.
Je voulais savoir, Yann, le montant de l'étude, là, celui-là, tu disais qu'il passait pratiquement tout sur la tech.
Hey, si j'étais vous, je le passerais tout sur la tech parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre façon belle façon de le faire subventionner parce que sur le primo, le max qu'ils vont subventionner, c'est 50 %. Et c'est du taponnage là, pour le faire subventionner sur le primo. Puis l'autre 50 % que le primo ne subventionne pas pour les études, tu peux pas le payer avec la tech. Il va falloir le payer avec tes taxes. Là.
OK.
Fait que c'est, moi, je le mettrais sur la tech, carrément. Fait que la grosse question, ce qu'il faut demander, c'est est-ce que c'est conforme à l'attribution de vos contrats municipaux? Est-ce que vous êtes à l'aise d'aller à l'heure avec ce contrat-là? La question aussi à demander, c'est votre responsabilité envers vos citoyens de demander des prix de deux consultants pour s'assurer que vous avez le prix juste. Là, ça, c'est tout dans votre cours. Là, c'est qu'il faut décider si vous vous sentez que vous avez vraiment besoin de faire ça. Parce que c'est ça. L'autre option, c'est vous allez faire un appel d'offres sur les SAO pour inviter les ou sur invitation pour inviter deux consultants pour se missionner sur la même chose. Mais là, après ça, faut être sûr qu'ils se missionnent sur la même chose parce que là, on tombe dans la loi du plus bas soumissionnaire conforme qui fait en sorte que vous allez être obligé d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme. Peu importe c'est qui. Fait que c'est la décision à prendre. Chaque municipalité a ses propres pensées là-dessus. Là.
On est-tu obligé, Yann, de faire ça?
Tu es obligé d'aller en appel. Mais si vous êtes conforme, si vous avez une... Je sais pas, je me rappelle pas comment ça s'appelle, là. Cathy, je te l'ai envoyé, là.
Si
votre politique de gestion de contrat municipal est acceptée, là, le règlement que vous pouvez attribuer les contrats jusqu'à 105 700 $ de gré à gré, mais vous avez le droit de le faire, là.
Oui, il est en vigueur. Il est en vigueur à partir de...
Il est en vigueur?
Oui. On l'a adopté lundi.
Ah, OK.
Fait que là, c'est sûr que dans règlement-là, monsieur, c'est juste qu'il faut faire, il faut faire attention. C'est que, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. On peut donner des mandats de gré à gré pour 105 700 $ mais il faut pas le faire tout le temps parce que, à un moment donné, ils vont dire qu'il y a du favoritisme. Donc, il faut essayer de, ils ont plusieurs choses qu'ils ont mis en place. De temps en temps, il faut essayer de donner à un autre consultant. De temps en temps, il faut aller à un appel d'offres. Fait que, mais je pense que pour vous, il y a pas un problème parce que, tout de suite après cette étude-là, vous allez en appel d'offres pour les plans et devis, pour les consultants. Fait que tout de suite, vous allez démontrer quand même que vous favorisez pas un consultant particulier. Puis on veut tout favoriser ceux avec qui on aime de travailler, avec qui on fait confiance. Là, fait que ça arrive pour toutes les municipalités qui essaient de travailler avec les gens qu'ils veulent travailler avec, parce qu'il n'y a pas un gros gain financier là, de nous mettre en compétition. C'est comme d'aller chez le médecin. Ouais. Puis, de demander un prix au médecin pour te guérir, mais c'est pas vraiment ça qui va décider quel médecin tu prends. T'sais.
Le problème là-dedans, Yann, c'est que si on va en appel d'offres pour une autre soumission, là, c'est des délais, là. Ça veut dire que là, ça retarde le projet, puis ça veut-tu dire que là, on perd un an à cause de ça?
Mais selon moi, tu perds un an, oui. Vous allez perdre un an. Si vous allez en appel d'offres, vous allez perdre un an, c'est sûr, parce que là, montez votre appel d'offres, sélectionnez votre consultant. Après ça, commencez le mandat, vous allez être rendu en mois de juin. Puis là, planifiez les démarches pour installer les débitmètres. Peut-être ça serait possible de les installer à l'automne. Donc, ça veut dire il faut les laisser là jusqu'au mois printemps prochain. Fait que si vous perdriez pas un an au complet pour cette étape-là, vous allez perdre parce que là on va finir avec l'automne au lieu de commencer avec l'automne. Fait que c'est plus 6 mois qu'on perd là. Mais dans les chantiers ou dans le calendrier, le problème au Québec, c'est qu'on peut pas construire l'hiver. Fait que en ce moment, comment c'est planifié, c'est pour que les choses arrivent en 2000. Je vais juste regarder, relever pour que la construction puisse se faire. L'étape numéro appel d'offres, c'est ça qu'on puisse être en appel d'offres pour l'entrepreneur en avril. Toutes les choses doivent s'enchaîner là pour être en 2024 en appel d'offres en mois d'avril. Si on perd 6 mois, mais on peut pas aller en appel d'offres en mois d'avril en 2024. Vous pouvez imaginer, on est 6 mois plus tard. Donc, le...
On retarde encore les travaux.
Mais on retarde les travaux.
On va le refaire dans l'année suivante.
C'est ça. D'après moi, si vous allez à un appel d'offres pour cette étude-là, vous allez construire... Si vous allez retarder tout le projet de 1 an. C'est vraiment... Mon opinion, c'est ça. Là, ça retarderait de 1 an.
OK.
C'est ça. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas rentré dans les détails du budget, mais je vous invite vraiment, si vous voulez, vous n'avez rien à faire, il n'y a pas rien à voir à télé, là, de regarder les tableaux détaillés là, des heures qu'on a mis. On a vraiment mis des heures raisonnables avec les taux de non-spécialistes et de non-techniciens. C'est des taux un peu moyens qu'on a mis. C'est sûr que si on est capable de faire travailler nos ingénieurs juniors puis nos ingénieurs intermédiaires plus sur le projet, ça réduit les coûts un peu pour vous, mais il faut avoir les gros noms là-dessus quand même pour s'assurer que ça va bien. Donc moi je suis très confiant qu'on fait un très beau, très belle étude et que l'étude va être bien enlignée pour que vous allez pas vous faire avaler un traitement que vous voulez pas, parce que s'il y a bien une équipe là, qui est capable de faire passer les étangs non errés, ça va être nous autres, parce que on en a passé beaucoup maintenant. Fait que comme Saint-Hélène de Mansbourg là, il est en construction cet été. Fait que tout ça, ça a passé là. Puis ça, c'est une bête de primo celui-là. Là. Fait que on a aussi plusieurs au Témiscamingue, la municipalité de La Tulle, Pégabouri, Fugerville. C'est tous des projets de primo en ce moment. La ville de Ville-Marie. Aussi, un projet de primo pour ajouter de déphosphatation. Donc, on commence à comprendre le jeu du primo pour être sûr que ça passe. Mais ce n'est pas un jeu, c'est que le ministère des Affaires municipales, ils ont des exigences très sévères pour s'assurer qu'ils subventionnent le bon affaire. Là.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions pour Yann, je le laisserai partir, le remercier là, de sa présentation, puis on pourrait poursuivre la discussion là, entre nous.
Parfait. Aucune autre question?
Non. C'est bon? Avez-vous d'autres questions en vidéoconférence?
Ça va, Yann?
Ben, merci beaucoup, Yann, puis on va se tenir au courant.
OK, ça marche. Merci, hein?
Merci, là.
Bon, on peut poursuivre la discussion. Je vous rappelle qu'on est sous enregistrement. On est encore en séance extraordinaire. Donc, ce soir, la décision que vous devez prendre, c'est si vous voulez octroyer le contrat comme il est présenté ou si vous désirez aller en appel d'offres avec d'autres fournisseurs pour le service d'études de faisabilité.
La dernière fois, c'était ça.
Oui, la dernière fois, c'était avec eux qu'on faisait ça. Ben, on a eu du bon service. Oui, c'était très actif, là. On avait une bonne communication. Oui, tu étais venu régulièrement.
Vous autres, à la maison, vous pouvez dire? Avez-vous des questions?
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Hugues?
Moi, là, je sais que ça, c'est quand même, vous savez, ben, ça fait quand même un bout de temps qu'on patouche là-dedans, là. C'est une grosse affaire, c'est un gros projet. Avec SNC Lavalin, on a toujours, à date, je pense que, on a toujours eu un bon service avec eux autres. Là, pour cette étape-là, puis d'une façon ou d'une autre, il va falloir aller en appel d'offres pour l'étape, là, à un moment donné, là, je ne sais pas exactement, là, on en a parlé tantôt, là. Mais pour cette étape-là, si on ne veut pas perdre l'aide de la cause, là, si on va en appel d'offres, en tout cas, moi, mon opinion, ce serait de rester avec eux autres là, pour ce bout-là. Parce que, d'une façon ou d'une autre, tu m'as dit, Cathy, que notre règlement était conforme, là, c'est-à-dire qu'on pouvait aller jusqu'à 105 700.
C'est ça, oui. Oui.
Bon. Puis si on regarde, le coût, c'est 82 000 le cube, fait que ça rentre dans ça.
si on y va gré à gré.
Oui.
Puis je pense qu'on n'est pas illégal là-dedans parce qu'on a le droit de le faire.
C'est ça.
Hein?
Oui, exact.
Bon, on a le droit de le faire. Fait que moi, tant qu'à moi, je donnerai le contrat à Saint-Cyr de Valais. Je ne sais pas les autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça, c'est mon opinion. Fait que je vais aller avec les autres, là, s'il y en a qui sont... qui faisent valoir leur point de vue.
Moi, j'étais là au début des...
Hugues, il voulait parler.
Ouais.
Ah,
vas-y, Hugues!
Ouais, d'accord aussi avec M. le maire, là, je pense qu'on va qu'eux autres, on va sauver du temps. Même si j'avais l'impression des fois que c'était plus un vendeur qui nous parlait qu'un ingénieur, là. Je trouvais ça un petit peu en conflit, mais bon. On n'en connaît pas assez là-dedans là, pour faire une décision éclairée au niveau du mandat. Là. On n'est pas des ingénieurs non plus. Écoute, je pense que j'irai avec la question sauver du temps. Puis, comme on disait, le pourcentage qu'on paye de ça est quand même pas si élevé.
OK, Diana, tu voulais-tu poursuivre?
Ben, moi, je serais d'accord pour aller avec lui, au moins pour commencer. Après, s'il y a quelque chose...
Après, on va pouvoir aller comme ça s'appelle d'offre. Étant donné qu'on a déjà donné le contrat, peut-être qu'on
ne
va pas lui ordonner ce
contrat-là,
étant donné que ça peut
pas être. Ben, je pense de toute façon, on
n'aura
pas le choix. C'est ça. On n'aura pas le choix à l'étape
24
là,
non,
de
l'appel
d'offre.
Avec la construction.
Oui, pour les plans, le devis, la surveillance, puis le consultant.
C'est ça, tu n'auras pas le choix, étant donné que ça va être plus que 100 000 $.
Fait que c'est sûr que là, si on le donne de gré à gré, de toute façon, on irait là, en appel d'offres pour les... Dans le fond, lui, là, son offre, c'est de l'étape 1 à 23. Ensuite de ça, on retourne en appel d'offres. Peut-être que ça va être eux qui vont poursuivre, peut-être que ça va être une autre firme aussi.
C'est ça.
Bien d'accord avec ça. Je ne sais pas les autres, est-ce que vous êtes en accord tout le monde avec ça?
Oui, Réal, Diana...
Ouais, Réal!
Oui, d'accord avec ça. Moi, avec les autres, puis comme tu parlais tantôt, à la
Réal est en accord.
Diana, elle?
Diana, tu sais bien qu'elle
est en accord?
Aussi, oui.
Priscilla?
Oui.
Toi, Hugues?
Hugues, il l'a dit tantôt. Y a-tu Claude puis Vital, sont-tu là?
Non, sont absents.
On tape ça, bon.
Ben, on est quand
même
pareil.
Oui.
Ça sent bien quand même. Fait que moi, là, en
tout cas, je pense que... puis du fait qu'eux autres sont déjà au courant de notre dossier, ils ont déjà travaillé sur nos... sur nos aqueducs, là, et puis à date, moi, en tout cas, m'a dit comme eux, c'est sûr que le cadre des... Et il y a une vente à faire, mais comme on dit, ça veut dire, on va-tu réellement sauver des milliers là, de dollars avec ça, là, tu sais, là, quand même, on parle pas de 400-500 000, là, on parle de 82 000. Même s'il y en aurait un grand soumission, puis il y en aurait un qui nous en reviendrait peut-être bien 10-15 000 pièces de moins, mais là, c'est le temps aussi, là, faut recommencer tout en nœud, là. T'sais, il n'est pas au courant de notre dossier, fait que lui, là, eux autres, ils ont quand même du travail de fait pour nous présenter ça. Fait que là, j'imagine que si on irait vers une autre firme ou en soumission, ben là, c'est des délais, c'est bien sûr. C'est sûr, eux, quand je t'appuie là-dedans, là, le gars, regarde, il prêche sa paroisse, mais je pense que nous autres, même à ça, on n'est pas défavorisés à ça. Bon, en tout cas, d'après moi, là, si j'y vais d'une façon logique et sincère, là, je pense que c'est correct comme ça. Là.
Donc, est-ce que M. Legault, est-ce que vous en faites une proposition?
Oui, moi, j'en fais une proposition. Puis, puis en plus, il n'y aura pas d'enveloppe brune là-dedans. Là.
Mais c'est pas visé, Pierre. Puis, est-ce
qu'il
seconde?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde?
Hein?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde?
Priscilla.
Priscilla seconde.
OK.
ça prend un proposeur pour la fermeture de l'Assemblée. Qui propose?
Diana. Je peux le faire, moi, ou...
Diana l'a proposé, M. Godbout, vous secondez?
Oui.
Parfait, merci.
Puis je vais souhaiter bonne soirée à tout le monde, puis j'ai bien hâte de vous revoir en personne.
D'autres tout, là.